Merci à tous d'écouter RFI. Il est 9h à Cap-Haïtien, 13h en temps universel.
Anne Contenaire.
RFI midi, suite et fin. Nous sommes sur le continent américain pendant une demi-heure. Nous irons en Haïti. Nos envoyés spéciaux à Cap-Haïtien ont pu rencontrer les autorités de la ville où l'on essaye de relever la tête, de ne pas se laisser abattre, attrapé par le cycle de violence qui secoue la capitale et ses environs ainsi que toute une partie du pays. Nous serons aussi en ligne avec notre confrère Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Press, pour parler de cette confusion autour du Conseil présidentiel de transition. Notre dossier du jour au Chili aujourd'hui, pays modèle de la transition vers les énergies renouvelables. Et puis comme chaque jour, l'actualité des Outre-mer, Tiziana Baronne, on parlera de la Guyane tout à l'heure. Les habitants de Saint-Laurent-du-Maroni ont bloqué ce matin les accès à la ville.
Oui, cela fait suite à une réunion infructueuse sur l'insécurité qui s'est tenue hier avec le préfet de Guyane. Les détails à suivre, Anne.
À tout à l'heure, dans une vingtaine de minutes.
RFI Midi.
Et avant de développer tous ces sujets, on va faire le point sur l'actualité internationale. Bonjour Diane Berger.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
On va commencer par parler des États-Unis. La sélection des jurés a commencé pour le procès de Donald Trump.
L'ancien président américain est accusé d'avoir falsifié des documents pour déguiser en frais juridiques des sommes versées à Stormy Daniels, l'actrice porno, pour qu'elle taise leur liaison. L'ex-chef d'État risque jusqu'à 4 ans de prison. Et ceux qui vont trancher, ce sont donc 12 jurés, des civils, qui devront se prononcer à l'unanimité. Bonjour Marine Le Beg.
Bonjour.
Leur sélection s'annonce plus compliquée que prévu.
Oui, un libraire, un avocat ou une infirmière, n'importe quel habitant de Manhattan peut devenir juré et décider du sort de l'ancien président. Hier, un premier groupe de 96 potentiels jurés a pris place dans la salle d'audience. Mais à la question du juge « Pensez-vous pouvoir rester impartial face à Donald Trump ?», les deux tiers de la salle a répondu négativement. Les autres ont dû se soumettre à une série de 42 questions et dévoiler devant l'Assemblée des détails de leur vie privée. Profession, situation familiale, passe-temps, penchant politique. Selon les réponses apportées, l'accusation et la défense se réservent le droit de refuser autant de potentiels jurés qu'ils souhaitent, l'objectif étant d'éliminer les personnes ayant des préjugés sur l'affaire et sur Donald Trump. Alors que l'ancien président ne fait pas l'unanimité à Manhattan, il n'y avait récolté que 12% des voix en 2020. Les deux parties veulent des jurés disposés à se rallier à leur cause, car eux seuls ont le pouvoir de relaxer ou faire condamner Donald Trump. Un véritable casse-tête s'annonce donc pour trouver les 12 New-Yorkais qui constitueront le jury final. Et ça va prendre du temps. Les observateurs voient déjà la sélection s'éterniser. Elle devrait pour l'instant se prolonger d'au moins une semaine.
Merci beaucoup Marine Le Beg pour ces explications. La machine se grippe pour Tesla. Le constructeur américain va supprimer 10% de ses effectifs, 14 000 personnes licenciées. Cela car les ventes de ses véhicules électriques ralentissent. Nicolas Feldman, Elon Musk l'a annoncé hier par écrit à ses salariés.
Il n'y a rien que je déteste plus, mais cela doit être fait. Dans son email adressé en interne, Elon Musk justifie ses licenciements par la nécessité à la fois de faire des économies de coûts et d'augmenter la productivité. La décision difficile, écrit-il, a donc été prise de réduire nos effectifs dans le monde de 10%. Après des années de succès, Tesla traverse une période délicate. Ses ventes sont en baisse, sa production a reculé sur un an de près de 2%. Au dernier trimestre de l'année, l'entreprise a même perdu son statut de numéro 1 mondial des véhicules électriques au profit du chinois BYD. La marque Tesla, qui s'est très tôt positionnée dans le haut de gamme, souffre d'une part de la concurrence des voitures chinoises à bas prix, mais le groupe doit aussi composer avec le ralentissement mondial du marché des véhicules électriques. La demande est en baisse et cela affecte tous les poids lourds du secteur, à commencer par son concurrent direct BYD, qui a vu ses ventes chuter sur un an de 43%.
Nicolas Feldman du service économie de RFI. 553 camions d'aide humanitaire ont pu rentrer dans la bande de Gaza ces deux derniers jours, mais ce n'est toujours pas assez, répond l'ONU, qui demande aux autorités israéliennes de laisser passer plus de véhicules. Au même moment, Benjamin Netanyahou tient un discours martial aux nouvelles recrues de son armée. Vous rejoignez Tsahal afin de repousser un ennemi cruel, les monstres qui nous ont attaqués. Nous les frappons en retour sans pitié. Fin de citation. Le premier ministre israélien qui galvanise donc ses troupes alors que la menace d'un embrasement généralisé pèse toujours sur la région. L'armée israélienne vient de signaler que deux drones armés venus du Liban ont explosé en Israël, une attaque revendiquée par le Hezbollah. Et tout le monde guette la riposte d'Israël contre Téhéran après l'assaut du week-end dernier. Coincé entre Israël et l'Iran, un pays redoute le pire, c'est la Jordanie qui a vu les drones et les missiles survoler son territoire le week-end dernier. Une polémique est même née dans le pays car la population est un franc soutien de la cause palestinienne. Or, Or, la Jordanie a neutralisé une partie des engins iraniens qui visaient Israël. Notre correspondant à Amman, Mohamed Erami.
Il est devenu clair que l'attaque iranienne contre Israël a suscité la colère jordanienne après que des dizaines de missiles et de drones iraniens ont traversé son ciel à l'aube dimanche dernier. La colère jordanienne a donné lieu à un discours diplomatique dur et inhabituel exprimé par le ministre des Affaires étrangères, Ayman al-Safadi, qui a confirmé que l'armée jordanienne détruirait tout missile dans le ciel du royaume s'il provenait d'Iran ou même d'Israël. Ayman al-Safadi, ministre des Affaires étrangères de Jordanie.
Chaque drone ou missile qui pénètre dans l'espace aérien jordanien sera immédiatement abattu pour protéger la Jordanie et la vie des Jordaniens. Avant cette attaque, nous avons abattu de nombreux missiles et drones dans notre espace aérien.
Professeur de sciences politiques à l'Université de Jordanie et expert politique, le docteur Ibrahim Al-Atoum a estimé que la rhétorique du royaume à l'égard de l'Iran et d'Israël reflète la position sérieuse du pays qui ne veut pas être partie prenante dans l'équation du conflit entre Téhéran et Israël.
La position jordanienne est politiquement très claire. Elle refuse que le royaume soit une arène d'échange de messages entre les parties iraniennes et israéliennes.
Le roi de Jordanie, Abdallah II, avait confirmé lors d'un appel téléphonique au président américain Joe Biden son rejet, ainsi que celui de son pays, au fait que la Jordanie devienne une zone de guerre régionale. Mohamed Erami, Amman, pour RFI.
Dans ce contexte, Vladimir Poutine a eu un entretien au téléphone avec le président iranien. Le chef du Kremlin appelle à la retenue. De son côté, Washington se dit prêt à renforcer les sanctions contre l'Iran. Et la chef de la diplomatie allemande est en Israël aujourd'hui, un déplacement alors que Berlin souhaite aussi sanctionner Téhéran, cette fois-ci au niveau européen. L'Allemagne mobilisée également au sujet de l'Ukraine. Le chancelier allemand Olaf Scholz plaide auprès de son homologue chinois Xi Jinping pour qu'il intervienne. Il doit faire pression pour que Vladimir Poutine arrête sa campagne insensée contre Kiev. Le choix de la force à Mayotte contre l'insécurité. Un an après Ouambouchou, le gouvernement français lance une nouvelle opération intitulée Place Nette dans l'île de l'océan Indien. Département le plus pauvre de France, 1700 gendarmes, policiers et militaires vont être déployés sur une période de 11 semaines. L'actualité française, c'est aussi ses félicitations d'Emmanuel Macron à deux ressortissants du pays en Australie. Damien Guéraud et Silas Despro se sont interposés face à l'assaillant qui a tué 6 personnes à Sydney samedi dernier. Au large de laquelle la grande barrière de corail blanchit sans cesse, le phénomène s'accélère à cause du réchauffement des océans. Et l'agence américaine d'observation océanique et atmosphérique alerte. Igor Strauss, bonjour.
Bonjour Diane, bonjour à tous.
Tous les massifs coralliens de la planète sont concernés.
Oui, l'Australie avec sa grande barrière de corail, mais également les Caraïbes, la mer Rouge ou le Pacifique. Les eaux du monde entier sont concernées par un blanchissement massif des récifs coralliens. Un phénomène qui se répète, c'est le quatrième d'une telle ampleur depuis 1985. Et qui s'aggrave avec le réchauffement record des océans. Alors que 30 à 50% des coraux de la planète ont déjà été perdus, bien les scientifiques rappellent que sans changement majeur, ils pourraient totalement disparaître d'ici la fin du siècle. Une menace qui est très sérieuse avec des conséquences multiples sur les écosystèmes océaniques, mais également sur les populations humaines. Plus d'un quart des espèces marines ont trouvé refuge dans ces récifs coralliens qui leur servent d'abri contre les prédateurs, de nurserie et de garde-manger. Et selon WWF, bien 850 millions de personnes dans le monde dépendent de ces récifs pour leur alimentation, leur emploi ou pour la protection des littoraux. La survie d'une partie de l'humanité dépend donc de la réduction du stress thermique qui provoque le blanchissement des coraux.
Merci beaucoup Igor Strauss. Et enfin un mot du relais de la flamme olympique qui a commencé tout à l'heure en Grèce. La torche a été allumée à midi, heure locale, sur le site antique d'Olympie, lieu d'origine des Jeux, puis confiée à un athlète grec et ensuite à l'athlète française Laure Manoudou, ancienne nageuse médaillée plusieurs fois aux Jeux. Au total, ils sont 600 à se relayer pendant 11 jours à travers la Grèce et ensuite la flamme sera transportée en bateau jusqu'à Marseille, arrivée prévue en France le 8 mai prochain. Maintenant, il est l'heure de retrouver Anne Courtenay. Suite et fin de RFI Midi.
Merci Diane Berger.
RFI Midi. Gonaïve, 90.5 FM.
L'incertitude et la confusion ce matin encore en Haïti autour du Conseil présidentiel de transition. Où en est-on ? Le gouvernement sortant a-t-il enfin validé l'entrée en fonction de l'équipe de transition ? On en parle avec notre confrère Godson Pierre. Bonjour.
Bonjour Anne.
Vous êtes le directeur de l'agence Alter Press. Alors, est-ce qu'on y voit un petit peu plus clair ce matin après la polémique des derniers jours ?
Eh bien, on attend encore de savoir et surtout de comprendre ce qui s'est passé. Il y a eu le décret du gouvernement le 12 avril pour créer officiellement le Conseil présidentiel de transition. On savait qu'un arrêté de nomination des membres de ce Conseil devait l'accompagner, mais voilà, seule une page de couverture de ce document a circulé dans les réseaux et aucune explication. Et lundi matin, ce document émerge au complet, tout de suite démenti du ministère de la Communication qui qualifie le document de faux. Mais le problème, l'arrêté est signé par l'ensemble des ministres et en vente, donc publié. C'est ce que reconnaît plus tard un membre de la coalition gouvernementale, Jean-Albert Alexis, ancien président de la Chambre des députés. Pour lui, il y a eu des tergiversations, mais on ne peut plus reculer. Alors, comment le gouvernement compte s'en sortir? C'est ce qu'on va voir peut-être dans les prochaines heures.
Et pendant ce temps, Godson, la capitale est toujours paralysée par les gangs. Quelle est la situation en ce moment pour les habitants de Port-au-Prince et des environs?
Eh bien, les quartiers font toujours face à la fureur des gangs malgré un calme apparent dans certains autres. Toujours des tirs nourris par endroits et forcément des balles perdues, des actes de violence délibérés. Le danger est constamment présent. Découverte de cadavres à Delma, par exemple, c'était hier au milieu de détonations qui ont terrorisé les riverains, particulièrement près de la voie menant à l'aéroport international, toujours fermé. Au cours du week-end, kidnapping en mer, 6 individus retenus et un bateau rempli de milliers de sacs de riz détournés, et puis des vols incessants d'hélicoptères la nuit qui troublent le sommeil des Port-au-Princiens. Des plaintes nous parviennent.
Et dans ce contexte, Reporters sans frontières ainsi que de nombreux journalistes haïtiens appellent à protéger la profession. Vous faites partie des signataires de la tribune dans laquelle vous rappelez, Godson, le rôle essentiel de l'information.
Essentiel parce que les Haïtiens d'ici et d'ailleurs doivent savoir, le monde aussi doit savoir ce qui se passe en Haïti, savoir et comprendre, des voix doivent pouvoir se faire entendre, nous avons à témoigner et expliquer tous les jours. Et pour cela, Haïti a besoin d'un journalisme indépendant, fiable, pluriel, mais impossible sans sécurité et sans accès aux sources quand des quartiers entiers de la capitale sont devenus inaccessibles. Et puis, dans ce contexte aussi, l'instabilité financière des rédactions, la précarisation des conditions matérielles nécessaires à notre travail, telles sont les raisons de notre cri.
Merci Godson Pierre, directeur d'Alter Press. On vous retrouve mardi prochain, comme toutes les semaines. Et d'ici là, bien sûr, il est toujours possible de vous lire sur le site alterpress.org. Ailleurs dans la presse haïtienne, à Blajounaïdi, on revient sur d'autres violences parce qu'il n'y a pas que les routes qui sont visées par les gangs.
Oui, après les routes nationales, l'insécurité gagne aussi la mer, titre le Nouvelliste, car ce qui est devenu depuis des mois une alternative au danger du transport routier est désormais aussi une aubaine pour les bandits armés. Les incidents ont augmenté de manière considérable, confirment des sources portuaires au journal. Et Godson Pierre en parlait, exemple le 4 avril dernier, avec le Magali, un navire cargo chargé de riz, détourné par les gangs et finalement récupéré. Et là encore, les moyens manquent pour une surveillance continue des côtes et les trafiquants de toutes sortes en profitent.
On reste en Haïti, mais on va s'éloigner un peu de la capitale. On va retrouver nos envoyés spéciaux à Cap-Haïtien, dans la deuxième ville du pays, dans le nord. Sur place, on essaie de ne pas se laisser couler, malgré la crise. Les autorités tiennent à répéter qu'Haïti n'est pas condamné au chaos, vous allez l'entendre. Sur place, Vincent Souriau et Boris Vichit ont rencontré le maire adjoint de Cap-Haïtien.
Patrick Almonor s'est fixé une mission, faire briller Cap-Haïtien. Oui, le pays est en larmes, oui, la capitale est en sang, mais sa ville à lui, c'est la deuxième ville d'Haïti. On y vit bien et il est temps que ça se sache.
Ce que vous vivez là aujourd'hui, vous pouvez marcher à n'importe quelle heure, il y a des activités nocturnes. Le Cap existe. On ne peut pas résumer Port-au-Prince pour Haïti. Et c'est là qu'il y a une confusion au niveau international. Maintenant, c'est à nous, comme Capois, à nous, comme Capoises, pour vendre le Cap comme un espace qui fait partie d'Haïti. Il n'existe pas seulement le Port-au-Prince.
Il y croit dur comme fer. Et lorsqu'on le titille, tout de même, les gangs, l'insécurité, l'image ternie d'Haïti, est-ce que vous ne seriez pas en décalage avec votre temps? Il répond tourisme, histoire et patrimoine.
D'abord la sécurité, ce que nous avons comme site naturel, ce que nous avons comme site historique, ce sont des fosses. Le patrimoine, d'ailleurs, Cap-Haïtien, depuis 1995, est classé comme ville patrimoine au niveau national. Maintenant, il faut l'organiser, il faut avoir d'autres hôtels, il faut avoir beaucoup plus de chambres. On peut faire venir des gens, les visiteurs, en termes de développement touristique.
Son rêve, profiter de l'aéroport international pour attirer des investisseurs étrangers et montrer que sa région a de l'avenir. Vincent Souriau, Boris Vichit, Cap-Haïtien RFI.
Reportage de nos envoyés spéciaux à Cap Haïtien que nous retrouverons demain dans ce journal d'Haïti et des Amériques.
RFI Midi, Anne Contner.
On va continuer à lire la presse du continent avec vous, Abla Jounaïdi, direction les États-Unis à présent. Après des mois de paralysie au Congrès, l'aide américaine à l'Ukraine pourrait être débloquée.
Pourrait, oui. C'est en tout cas ce que pense le speaker de la Chambre des représentants, le républicain Mike Johnson. Il promet qu'un texte sera soumis dès ce soir aux membres de la Chambre des représentants. Hier, il dévoilait les grandes lignes de son plan à son camp politique. Il s'agit en fait de présenter 4 projets de loi distincts pour l'aide à l'Ukraine, à Israël, à Taïwan et d'autres priorités de sécurité nationale. Selon lui, tous peuvent être votés cette semaine, rapporte le quotidien The Hill. Mais rien n'indique que le vote sera acquis, les divisions étant encore vives parmi les conservateurs. Ce projet, c'est même un défi à son camp, selon le Washington Post. Il risque d'irriter bon nombre de ses membres avec un plan alambiqué visant à apaiser ses détracteurs de droite, tout en donnant au faucon de la sécurité nationale une chance de faire avancer des milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, à Israël et à Taïwan, développe le quotidien de la capitale.
Pourtant, Abla, la stratégie présente des avantages.
D'abord, celui de permettre aux législateurs de choisir les éléments du projet de loi qu'ils souhaitent soutenir et ceux auxquels ils s'opposent, détaille The Hill. Pour rendre les choses encore plus acceptables, il permet même de présenter des amendements à chaque proposition, précise le journal. Certains élus conservateurs exigent que toute aide supplémentaire à l'Ukraine aille de pair avec un renforcement de la sécurité à la frontière avec le Mexique, rappelle The Hill. Les démocrates, eux, disent attendre de voir le détail de la proposition de Mike Johnson.
Marjorie Taylor Greene, élue pro-Trump de Géorgie, elle parle déjà du plan de Johnson comme d'une arnaque.
Oui, elle ne donne pas cher de la peau du speaker pour la prochaine mandature. Il ne sera pas le speaker si nous réussissons à avoir la majorité la prochaine fois, promet-elle dans le Washington Post. Les enjeux personnels sont élevés pour Johnson, mais en Ukraine, c'est plus grave que cela, rappelle un reportage du Wall Street Journal. Depuis plus de 2 ans, les villes ukrainiennes sont la cible de missiles russes et de drones chargés d'explosifs du même type que ceux utilisés par Téhéran pour attaquer Israël, rappelle le quotidien. Et pendant que l'aide vitale des États-Unis reste bloquée au Congrès, le maire de Kharkiv, dans l'est du pays, voit sa ville être au cœur de la dernière campagne de bombardement russe. Il ne peut qu'espérer une protection comme celle dont jouit Israël, rapporte le Wall Street Journal.
Et à propos de ces drones iraniens que vous évoquiez à l'instant, ceux qui ont visé Israël le week-end dernier, Washington annonce à l'instant que les États-Unis n'hésiteront pas à renforcer les sanctions envers l'Iran.
RFI, la radio del mundo.
Nous vous emmenons maintenant au Chili, pays en pointe de la transition vers les énergies renouvelables. Un modèle. L'an dernier, l'électricité solaire et éolienne représentait 35% du marché global. Et le président de gauche veut aller beaucoup plus loin. Il vise 80% d'électricité renouvelable en 2030. Et les entreprises, eh bien, elles sont obligées de s'adapter, comme le groupe français Engie, qui est installé dans le nord du pays. Notre correspondante Naïla de Rouanet est allée voir comment s'effectuait la transition écologique. Reportage.
Des centaines de rangées de panneaux photovoltaïques sont alignées en plein milieu du désert d'Atacama, le plus aride de la planète et aussi
le meilleur du monde en termes d'irradiation solaire.
Pascal Renaud est le directeur des énergies renouvelables en Amérique latine pour Engie. Ce champ de panneaux solaires peut alimenter jusqu'à 73 000 foyers chiliens, explique-t-il. Et le groupe investit également dans l'éolien.
L'ambition, c'est qu'entre le wind et le solaire, on monte au-dessus de 50%. D'ici 2030.
Plus de 50% d'énergie renouvelable dans 6 ans, c'est l'objectif que s'est fixé Engie pour calquer au mieux avec le souhait du Chili de sortir du charbon d'ici 2040. Et la machine est déjà lancée à 140 km de ce champ de panneaux solaires dans la ville minière de Tocopilla, coincée entre l'océan Pacifique et le désert. Engie a fermé les 4 unités de sa centrale à charbon et 2 ont d'ores et déjà été démantelées, explique Pascal Renaud.
L'installation qui est en face de nous et dont on voit ces structures très haute, hein. C'est des structures qui doivent monter à 10 mètres, 12 mètres en chaudière. Celles-là sont complètement arrêtées. Le terrain a été remis à neuf. Des décontaminations ont été faites aussi, puisque c'est des activités qui étaient assez polluantes dans le passé.
Et suite à la fermeture de la centrale à charbon, Engie a dû se séparer d'une petite centaine de salariés. Certains ont profité d'une retraite anticipée, d'autres ont bénéficié d'un plan de départ volontaire et d'autres encore ont été relocalisés.
Mon nom est Sébastien Pissarro.
C'est le cas notamment de Sébastien Pissarro, chargé de sécurité pour Pendant plus de 3 ans, il a travaillé dans la centrale à charbon de Tocopilla. Désormais, il occupe le même poste, mais sur les sites de production d'énergie renouvelable du groupe français.
Ça a
été une sorte de défi personnel pour moi. On m'a donné tous les outils et aussi les formations, les cours nécessaires sur les énergies renouvelables afin que je puisse continuer d'exercer mon métier au mieux.
Mais ces mesures d'accompagnement ne concernent pas les emplois indirects, comme celui de Pedro Castillo, 63 ans. Il est opérateur de grue sur le port de Tocopilla et travaille pour un sous-traitant d'Engie depuis 36 ans.
On recevait le charbon pour alimenter la centrale.
Aujourd'hui, à la tête du syndicat des travailleurs du port, Pedro Castillo regrette que seuls les employés directs d'Engie aient été pris en compte dans le plan de transition.
Il n'y a pas de reconversion pour nous. Les travailleurs se sentent mal, abandonnés. Il y a un manque de considération de la part d'Engie qui est l'entreprise principale. Ils devraient se préoccuper davantage de ces personnes qui ont travaillé des années, parfois plus de 25 ans, ces personnes qui ont mangé du charbon.
Engie se dit conscient de ces répercussions sociales, tandis que les travailleurs, eux, demandent un soutien de la part du groupe français face au chômage qui les menace. À Tocopilla, une vingtaine d'employés indirects ont déjà perdu leur travail.
On ne demande pas des sommes astronomiques, pas du tout, mais un soutien financier pendant quelques mois, au moins 6 mois, pour être plus tranquille et avoir le temps de retrouver un emploi. Il y a des travailleurs âgés et c'est compliqué dans ces cas-là. Moi, j'ai 63 ans et je sais que ça va être difficile.
Un sentiment d'abandon aussi vis-à-vis du gouvernement chilien. Diego Pardo, ministre de l'énergie, l'admet. Les emplois indirects dans cette transition énergétique sont un vrai défi.
À Tocopilla, nous avons élaboré un plan avec la communauté, mais il y a encore beaucoup à faire.
Pour atteindre son objectif de décarbonation totale d'ici 2040, le Chili va devoir fermer ses 19 unités de centrales à charbon qui sont toujours actives et relever le défi de centaines d'emplois indirects menacés par ces fermetures. Naïla Drouané dans la région d'Antofagasta, RFI.
Reportage de notre correspondante dans le nord du Chili. Le Chili, pays en pointe de la transition vers les énergies renouvelables. On vous retrouve à Blajounaïdi pour lire la presse du continent. Nous sommes au Venezuela. Le pays est en émoi après l'arrestation d'un militant accusé de tentative d'assassinat contre le président Maduro.
Oui, le ministère public lui reproche d'être l'instigateur et l'opérateur logistique de l'opération. Cette opération présumée avait déjà donné lieu à l'arrestation avant cela de 2 membres de Vente Venezuela, le parti politique de l'opposante Maria Corina Machado. Le parti a dénoncé l'arrestation du journaliste et militant. Quant au SNTP, le principal syndicat des journalistes vénézuéliens, il donne des détails sur les circonstances de cette arrestation. Près de chez lui, 2 hommes à bord d'un véhicule gris sans plaque l'ont obligé à monter. C'était lundi soir. Qui sont ces hommes exactement? Mystère, relate le journal Tal Cual Digital. C'est peut-être le SEBIN, le service de renseignement, d'après le message audio d'un ami, poursuit de son côté le quotidien El Carabobeno. Rojas était connu pour son activisme sur les réseaux sociaux, notamment lorsque la crise humanitaire faisait rage dans le pays et qu'il dénonçait à coups de vidéos le monopole qu'avaient certains groupes proches du pouvoir sur les biens devenus inaccessibles aux Vénézuéliens moyens.
Et il ne s'agit pas de sa première arrestation à Bla.
Non, c'est la 3e. Il avait déjà été appréhendé en 2020 en plein centre-ville par la garde nationale bolivarienne, rappelle le média indépendant Efecto Cocuyo. Tenu au secret pendant plus de 3 jours, il avait finalement été présenté devant un tribunal militaire avant de passer plus d'un mois dans la prison de Ramo Verde, la même prison où étaient détenus d'autres prisonniers politiques, rappelle le média en ligne. Arrestation politique, donc, ce ne serait pas la première fois, rappelle le journal. Depuis le début de l'année, au moins 9 personnes ont été incarcérés dans le pays pour avoir publié des messages sur les réseaux sociaux qui incommodent le pouvoir en place.
Abla Jounaïdi pour la revue de presse.
RFI Midi.
On va retrouver maintenant nos confrères de La Première pour l'actualité des Outre-mer. Bonjour Tiziana Maron.
Bonjour Anne.
En Guyane, des tensions entre habitants et forces de gendarmerie ont eu lieu ce matin à Saint-Laurent-du-Maroni après une réunion sur l'insécurité hier.
Oui, un collectif d'habitants insatisfaits des mesures annoncées hier soir par le préfet lors de cette réunion a décidé de bloquer les entrées de la ville située à la frontière avec le Suriname sur le fleuve Maroni. La correspondance d'Éric Léon qui était sur place il y a quelques heures au cœur du barrage.
L'atmosphère est
très tendu au moment où je vous parle, puisque dès 4 heures, les habitants bloquaient toutes les routes principales qui donnent accès à la ville, à part des palettes et des pneus qui sont en feu. Ils demandent simplement un dialogue renouvelé avec le préfet. Ils veulent des réponses concrètes à leur insécurité. Et donc, voilà, là où je me trouve en ce moment, c'est le point de blocage clé. Malgré les flammes et les manifestants, on laisse passer les véhicules d'urgence, là, comme c'est le cas à l'instant, là, devant moi. Et ils montrent un bon sens de responsabilité envers la communauté. Les voitures s'étirent en longue file de deux côtés. Certaines font demi-tour, d'autres patientent. J'espère une issue rapide.
Autre grogne, celle des planteurs de canne de Guadeloupe. Ce matin, ils ont organisé avec leur tracteur une opération escargot. Mobilisés depuis plusieurs semaines, les planteurs demandent une revalorisation du prix de la canne. Invité par les manifestants, le député de Guadeloupe, Maxime Mathiazin, s'est rendu hier à la manifestation organisée par le collectif à proximité de l'usine Bonne-Mère. Maxime Mathiazin estime qu'il s'agit d'une revendication juste et raisonnable.
Comment voudriez-vous que des agriculteurs, des planteurs et tout simplement des travailleurs puissent engager des moyens pour la production et qu'à l'arrivée, ils ne peuvent pas vivre et qu'on ne leur paye pas le prix, le coût de production de leur travail. Ça veut dire qu'ils travaillent à perte. Je vous rappelle qu'en Martinique, c'est 147 euros le prix de la tonne de canne. Ce qu'ils demandent aujourd'hui, les 120 euros, ce serait tout à fait juste parce qu'il faut savoir que de la canne, on ne tire pas seulement le sucre, mais également les 20 millions de litres de mélasse qui donnent 10 millions de litres de canne. Et au terme de la convention, je crois qu'ils doivent également percevoir une partie sur ces bénéfices. Il y a une convention canne qui existe. Il faut qu'on prenne tous les éléments de la convention. Il n'est pas normal qu'ils ne puissent pas vivre.
Le député Maxime Mathiazin au micro de Christian Banquin de Guadeloupe, la première. En Martinique, les infirmiers libéraux de nouveau dans la rue. Le syndicat Convergence Infirmière organise en ce moment un rassemblement devant le siège de la Sécurité sociale au Lamentin, au centre de l'île. Le syndicat dénonce l'indifférence des pouvoirs publics face à ces revendications qui portent notamment sur la reconnaissance de la profession ou encore l'augmentation des prestations. Convergence Infirmière qui rappelle au gouvernement que la profession est en grande souffrance. Et c'est la fin de cette édition. Bonne journée.
Merci Tiziana Marone et bonne journée à vous. On vous retrouve demain pour l'actualité des Outre-mer. Merci à tous d'être avec nous. De la musique avant de se quitter. Retour en 1990. Cette année-là, le groupe UB40 ressuscite une chanson écrite 20 ans plus tôt, Kingston Town.
RFI Midi.
Kingston Town, merci à tous d'avoir choisi RFI et merci à Yann Eligouin à la réalisation. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 11h, temps universel. D'ici là, passez une très bonne journée sur RFI. Tout de suite, de vive voix avec Pascal Paradeau. Kingston Town, the
place I long to be. If I had your world, I would give it away just to see.